J'enchaîne. Donc le titre de mon intervention... Non, mais c'est moi qui ne sais pas le manipuler. Naturellement analysant, avec un point d'exclamation et un point d'interrogation. Parce que finalement, je vais vous expliquer comment j'ai échoué à répondre à la question de ce séminaire. Qu'est-ce qu'un analysant ? Question d'autant plus difficile que Lacan paraît considérer que le sujet serait naturellement analysant. Définir ce qu'est un analysant en soi est un véritable casse-tête, car le lien à l'analyste apparaît d'emblée. Je suis ou j'ai été l'analysant de tel analyste. Je fais ou j'ai fait mon analyse avec un tel. Le terme d'analysant fait couple avec celui d'analyste. Empruntant même au vocabulaire de la vie amoureuse, on parle parfois des ex, ex-analyste, ex-analysant. Mais toujours, en tout cas, on dit « analysant de ». Lacan ne manque pas de souligner, dans la troisième, que la prise du sujet dans le discours analytique soude l'analysant au couple analysant-analyste. C'est une expression qui n'est pas de lui, qu'on lui propose à je ne sais plus à quelle journée, et qu'il adopte parfaitement, parce qu'elle lui convient tout à fait. Donc je vais vous proposer de suivre la carrière de l'analysant à partir de cette soudure. L'enjeu est de savoir si on peut faire une psychanalyse avec n'importe quel analyste. Il est rare, je crois que comme point de départ, il est rare, et on peut tous être d'accord là-dessus, qu'un analyste aille à la pêche aux analysants. C'est l'analysant qui choisit d'ouvrir la porte de tel analyste. Choix sans doute inconscient qui mériterait d'être mis sur le tapis. Mais il dépend de l'analysant d'en parler à son futur analyste. Dans le séminaire de Notre à l'autre, sur lequel je me suis un peu longuement arrêté, Lacan fait du névrosé un analysant naturel. La supposition du sujet supposé savoir, dit Lacan, fait le névrosé naturellement psychanalysant. La jouissance à laquelle il aspire est celle du sujet supposé savoir, quelle que soit la structure du sujet, hystérique ou obsessionnel, puisque pour le névrosé, précise Lacan, que je cite à nouveau, le savoir est la jouissance du sujet supposé savoir. Comme l'hystérique femme fait porter sa supposition sur une autre femme, qui saurait ce qui convient à la jouissance d'un homme, Lacan en fait une analysante née, déjà psychanalysante, dit-il. Et puisqu'elle sait faire l'homme supposé la femme savoir, elle saura donc aussi bien faire l'analyste, semble-t-il nous dire. Mais un point m'a arrêté dans ce passage du séminaire d'un autre à l'autre. Un passage qui m'a arrêté que je cite. La question qui se pose à propos de l'acte psychanalytique est celle de cet acte décisif qui, du psychanalysant, fait surgir, s'inaugurer, s'instaurer le psychanalyste. Fin de citation. L'acte serait donc du côté de l'analysant qui instaure l'analyste dans sa fonction. Et la suite de la citation que je viens de lire semble le confirmer. Je poursuis. Si le psychanalyste, dit Lacan, se confond avec la production du faire, du travail du psychanalysant, on peut bien dire que le psychanalysant fait le psychanalyste au sens fort du terme. L'analysant fait l'analyste, non pas dans le sens de limiter, mais bien plutôt d'instituer l'analyste dans sa fonction de faire travailler. On peut en conclure que l'analyste fait le maître, dans le sens de ne pas travailler. Il ne travaille pas, et il fait travailler, et que l'acte est du côté de l'analysant, qu'il institue. Il me semble aussi que c'est une indication concernant les entretiens préliminaires. Ne pas trop bavarder et proposer de mettre d'emblée au travail. Il s'agit avant tout de rendre sensible la dissymétrie des positions. L'analyste en place de maître qui ne travaille pas, l'analysant en position de celui qui se soumet à la tâche analytique, qui est de parler. lorsque Pierre Rey, dans une saison chez Lacan qui a été évoquée lors d'une soirée au séminaire, relate sa première rencontre avec Lacan, il souligne combien il a tenté de l'épater en étalant son savoir. Lacan l'a écouté sans broncher, ce qui n'a pas manqué après coup de provoquer un effet d'interprétation. Pierre Rey s'est senti confondu par ce puissant désir de reconnaissance qu'il cherchait à obtenir chez Lacan. Plus tard, dans son enseignement, dans la troisième précisément, Lacan introduit l'objet dont il convient que l'analyste use pour ouvrir la carrière de l'analysant. Je le cite. « Votre fonction, l'offrir comme cause de son désir à votre analysant. C'est ça qu'il s'agit d'obtenir. Mais si vous vous y prenez la patte, ce n'est pas terrible non plus. L'important, c'est que ça se passe à vos frais. » Fin de citation. Alors, l'image latente du piège à loup me reste un peu énigmatique. Ce qu'il est moins est le but de l'offre de l'analyste. Causer le désir de l'analysant. Son moyen est clairement énoncé. Ça doit se faire aux frais de l'analyste. Un exemple clinique éclairera peut-être ce point. Une jeune femme me demande de laisser la porte de mon cabinet entrouverte la première fois que je la reçois. Elle m'explique bien qu'il ne sera pas possible de faire autrement. Elle ne rentrera dans mon cabinet que si je laisse la porte du cabinet entrouverte pendant les séances. Elle m'explique que deux thérapeutes avaient tenté de la violer. On comprend sa réticence. Comment ? Donc j'accepte bien sûr la porte ouverte. J'accepte également une autre exigence, à savoir, j'ai l'habitude de prendre les rendez-vous sur une semaine, mais de les noter dès le début de la semaine, et elle me demande de ne prendre qu'un rendez-vous après l'autre. J'accepte jusqu'au jour où elle va me demander, et avec une insistance assez vive, de fixer les rendez-vous à l'avance sur 4 semaines, ce qui n'est pas non plus très commode. Je m'y plie au début, mais je sens là qu'il y a un changement qui vient de s'opérer. La porte pouvait rester fermée, la cure avait commencé. Comment témoigner cette nouvelle exigence de rendez-vous fixé longtemps à l'avance ? Exigence que j'ai pris comme un indice de la mise en place du transfert dans son versant « y être pris », qui vaut autant pour l'analysante que pour l'analyste. Je suppose que le « ça doit se faire à vos frais » de Lacan concerne ce point où l'analyste se laisse prendre dans le transfert pour causer le désir de l'analysant. Ce qui inaugure l'entrée dans sa carrière proprement dite d'analysant. Cet « à vos frais » souligne aussi le fait que l'analyste peut très bien ne pas savoir ce qui a permis la passe à l'entrée de la cure. Il peut juste en saisir les effets dans l'après-coup. Donc la conclusion sur l'entrée dans la carrière analysante est que s'il s'agit d'un acte de l'analysant, acte qui institue l'analyste comme celui qui fait travailler, c'est la flèche 1 là sur le petit schéma que j'ai produit, encore faut-il que l'analyste sache y répondre en assurant les conditions de sa pleine réalisation. Pleine réalisation qui ne peut venir que dans un second temps. C'est pour ça que j'ai mis un petit numéro 2 à la flèche qui part de l'analyste vers l'analysant, qui fait retour. L'analyste ne peut que constater la passe à l'entrée de l'analyse, comme marque d'un désir d'analyse lié à l'offre qu'il a soutenue en se laissant advenir en place de cause du désir de l'analysant. Il n'est peut-être pas toujours le mieux placé pour dire ce qu'est l'entrée dans la carrière de l'analysant, pour son analyste. La carrière, justement. Il arrive à Lacan de parler des analystes comme des gens qui s'efforcent de faire dire la vérité à leur analysant. Il a souvent lui-même répété « toujours dire la vérité ». L'un et l'autre, donc, l'analysant et l'analyste, ont à se situer dans un rapport à la vérité. L'analysant est poussé à dire la vérité. l'analyste, lui, je dirais qu'il y est tenu. Il a été souvent question des illusions ici, dans ce séminaire, concernant l'analysant, les croyances, les illusions de l'analysant. Mais Lacan est beaucoup moins indulgent, en affirmant, je le cite, qu'il n'y a pas un analysant qui ne mente à G continu. Ça, c'est féroce quand même. La première raison est que la vérité est impossible à dire toute, mais il y en a une seconde, inhérente au transfert. La vérité nous intéresse parce qu'il s'agit d'un élément du discours, un élément du discours analytique, qui soude l'analysant au couple analysant-analyste, et qui pousse, via le savoir de l'analysant qui travaille, à dire la vérité. Voilà pour quelle raison, en principe, l'analyste n'a rien à redire à ce que dit l'analysant, puisqu'il dit toujours la vérité, même s'il ment, puisque mentir, c'est quand même se référer à la vérité. L'analyste n'est pas seulement dans la position du maître qui fait travailler. Il est aussi le lieu d'adresse du savoir de l'analysant, porté par sa parole, et dans une position d'altérité radicale. Altérité radicale due au dispositif analytique lui-même. Si l'analysant et l'analyste sont liés par une même visée, la vérité, ce n'est pas de la même façon. L'amour du savoir n'est actif que du côté de l'analysant, l'amour du savoir ou le désir du savoir. Et le désir de vérité de l'analyste n'est pas amour de la vérité. On pourrait considérer donc que les termes du CDI de l'analysant sont l'amour du savoir ou le désir du savoir et le désir de vérité. L'amour du savoir n'est pas le seul à un jeu. Il y faut ce désir qui a agi dans l'acte d'entrée dans la carrière de l'analysant et que je relie donc au désir de vérité. Il semble délicat de supposer que le seul désir de l'analysant peut empêcher une rupture prématurée dans sa carrière. Surtout si on se reporte au moment où Lacan définit le transfert dans des termes complètement nouveaux. C'est dans le séminaire 11. Et en particulier, le séminaire 11, c'est les quatre concepts fondamentaux que tout le monde connaît par cœur, j'imagine. En particulier, les leçons du 10 et 17 juin 64. Voici ce que dit Lacan concernant les deux attentes de l'analysant à l'endroit de l'analyste. Il est supposé savoir, il est aussi supposé partir à la rencontre du désir inconscient. Fin de citation. Le verbe partir indique un mouvement actif du côté de l'analyste dont Lacan précise immédiatement son désir comme suit. L'axe, le point commun de cette double H, c'est le désir de l'analyste que je désigne ici comme une fonction, point qui n'est articulable que du rapport du désir au désir. Donc, la mise en fonction du terme de désir pour repenser le transfert est capitale pour notre question, car elle définit l'analysant, ainsi que le dit Lacan, quelques lignes plus loin, comme assujetti au désir de l'analyste. Dans ce cadre, il devient difficile, impossible peut-être, de définir l'analysant en lui-même. Il est si bien assujetti au désir de l'analyste que toutes les manifestations transférentielles vont dans le sens de le tromper, y compris la pleine réalisation de sa tâche de produire des associations, le but étant de se faire aimer. Dans ces pages du séminaire, nous trouvons déjà l'idée d'une vocation analysante naturelle. Le sujet est supposé savoir de seulement être sujet au désir, dit Lacan. Pente qui se révèle n'être en somme qu'une pente à l'aliénation au désir de l'autre, ce que le désir de l'analyste a vocation de contrer. Nous arrivons donc à une situation paradoxale pour définir ce qu'est un analysant. De l'analysant, seul dépend son entrée dans la carrière, à laquelle il semble voué naturellement. Il est ce qui répond à l'offre du dispositif analytique. Par ailleurs, sa carrière dépend de son aliénation ou passe par son aliénation au désir de l'analyste. La notion de désir de l'analyste, introduite dans le séminaire 11, est une fonction permettant de maintenir vif le désir de l'analyse, de la cure en tout cas. L'entrée comme la fin du processus se fait aux dépens de l'analyste. Il peut y laisser une patte, ça c'est dans l'entrée, et en fin de carrière, il a à supporter le désêtre. Si tout laisse penser que les commandes de la cure sont entre les mains de l'analysant, tout pouvoir de l'analysant, dit Anne, il est impossible de ne pas tenir compte du moteur de la cure, opérant au point précis, au joint précis du lien du désir de l'analysant au désir de l'analyste. Le deuil de la fin de l'analyse concerne toujours le terme même qui a ouvert la carrière. Le deuil dure tant que le psychanalyste persiste à causer son désir plutôt maniaco-dépressivement, dit Lacan dans L'étourdi. Dire ce qu'est un analysant est donc impossible sans considérer le couple analysant-analyste. Or, comme le note Lacan, il y a toujours, entre le psychanalyste et le psychanalysant, quelqu'un en plus. Il y a ce que j'énoncerai non pas comme représentation, mais comme présentation de l'objet. Fin de citation. Dès qu'il y a couple, vous le savez, en plus, il y a l'objet petit A qui se balade par là. Mais je vous propose d'escamoter un instant la place de l'objet A pour considérer que l'analysant se définit simplement dans son rapport à tel analyste en particulier. Rappelons-nous cette phrase des écrits : une psychanalyse type ou non et la cure qu'on attend d'un psychanalyste. Voilà qui semble fait pour nous sortir de l'impasse en établissant qu'un analysant est en fait le sujet de ses attentes vis-à-vis d'un analyste. Comme je l'ai relevé plus d'une fois, il paraît donc établi que tout dépend de lui et de lui seul. Un analysant se définit par la cure qu'il attend faire avec un analyste. Or, cette conclusion s'effondre dès l'instant où l'on admet que l'attente d'un sujet s'avère toujours plus ou moins déterminée par l'offre de l'analyste. L'offre de l'analyste, ainsi que sa façon de supporter le désir de l'analyste, ne sont pas sans incidence sur ce qu'un analysant peut attendre de son analyste. Et on retombe sur ce même nœud, ce cercle logique que j'essayais de dessiner avec le petit schéma que je vous ai proposé là-haut. Comme je considère difficile, sinon impossible, de définir ce qu'est un analysant en soi, et je crois que l'invention de la passe répond à cette difficulté, j'ai choisi de vous livrer une réflexion tirée après coup de mon expérience d'analysant. J'ai eu la chance de rencontrer deux analystes dans ma carrière d'analysant, commencé plutôt jeune. Le premier a été choisi pour son engagement et ce qui me semblait son côté travailleur, décidé et militant pour faire une place à la psychanalyse dans la cité. 3 séances par semaine, des rendez-vous tard le soir, tôt le matin, le train la nuit, enfin un truc qui a duré des années. Le maître mot étant le travail, je crois que cette analyse, en dehors de tous les bénéfices thérapeutiques et épistémiques, a peut-être aggravé mon côté besogneux. Bon, peut-être que ça a laissé cette marque. Le second, choisi dans une certaine urgence subjective, une difficulté due à un aléa de l'existence, devait pourtant être absolument au fait de la question du désir de l'analyste, parce que la crise éprouvée remettait aussi en question ce que je faisais dans mon fauteuil d'analyste. Difficile de considérer que quand on perd un peu les pédales, on reste toujours à la bonne place concernant la fonction qu'on a à occuper auprès de ces analysants. Et il aura fallu cette deuxième tranche pour nouer ce qui était resté isolé, énigmatique dans la cure précédente, des effets premiers et déterminants de la rencontre avec des éléments différentiels du langage. Pour cela, il fallait un désir d'obtenir la différence absolue incarnée en acte. si le pari sur le second analyste semble avoir été le bon. La surprise n'a pas manqué quant à l'issue de cette cure. Et je reste encore aujourd'hui surpris de ma surprise. Du coup, reste pour moi entière la question de ce que l'on peut attendre d'une psychanalyse sans l'offre qu'en incarne l'analyste en acte, tant la carrière de l'analysant ne va pas sans détour parfaitement, j'insiste, parfaitement imprévisible. Tour qui creuse la place de l'objet situé en plus entre l'analysant et l'analyste dans le petit schéma que je vous ai proposé. Si être analysant n'a rien de naturel, contrairement à ce que dit Lacan, j'en suis convaincu, il convient de revenir sur la soudure d'où j'ai pris mon départ. La soudure de l'analysant au couple analysant-analyste. Cette soudure, à mon avis, signe la prise du sujet dans le discours de l'inconscient. Le sujet, comme sujet barré, se range sous le S1 analysant qu'il représente auprès du S2 analysant-analyste, le couple, produisant l'objet en plus, le petit A. Et une analyse, justement, procède de passer du discours du maître au discours de l'analyste à produire un sujet qui, une fois qu'il aura pris la retraite, sa retraite d'analysant, pourra dire avoir fait une analyse laissant tomber le « avec ». Sinon, comment admettre la position analysante du véritable enseignant au sens de Lacan, puisque celui-là fonctionne sans analyste. Merci.